n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Caméra Subjective, le magazine cinéma de Radio G est de retour. Je suis heureuse de vous retrouver avec à mes côtés Anne-Li. Bonsoir Anne-Li.
Bonsoir Margot.
Et Véronique. Bonsoir Véronique.
Bonsoir toutes les deux.
Alors au sommaire ce soir, notre invité crée des images pour la musique. À l'occasion de la soirée Clip d'ici qui aura lieu le 24 mars au Shabada, on vous propose de découvrir en détail comment sont imaginés et réalisés ces petits films musicaux. Notre invité est entre autres réalisateur de clips, c'est Josic Jégu et vous l'entendrez dans un instant. Bien sûr, on a aussi fait le tour des actualités cinéma de la région pour vous proposer un agenda qui vous donnera envie de vous enfermer dans les salles obscures. Beaucoup de documentaires, un cap à l'Est, un peu de patience pour découvrir la sélection complète.
Et enfin, Margot, tu reviendras avec une nouvelle chronique qui est cette fois consacrée à un film en salle qui nous rappelle que oui, les femmes pleurent aussi.
Et je dirais même plus, Anne-Li, un film dont le titre affirme que même les femmes pleurent. À moins qu'ils ne disent que les femmes pleurent vraiment. Enfin, nous parlerons de Women Do Cry, réalisé par deux femmes bulgares, Mina Mileva et Vesela Kazakova. Et d'ici là, je vous laisse le choix pour la traduction française du titre.
Et alors dans cette émission consacrée au cinéma, on parle aujourd'hui d'une autre façon de faire de l'image, bien spécifique. À l'occasion de la soirée Clip d'ici, on l'a dit, on reçoit Josic Jégu. Bonsoir Josic.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tu es photographe, réalisateur mais aussi musicien, puisqu'on te retrouve dans les groupes Wild Fox et Fragile.
C'est ça.
À Angers, peut-être d'autres projets dont je n'ai pas connaissance.
Non, il n'y a que ces deux-là.
Ok. Et tu as réalisé deux clips dans la sélection Clip d'ici. Alors Clip d'ici, pour bien se remettre dans le contexte, c'est un concours de clips d'artistes issus de la région, alors Grand Ouest assez largement, on a les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, c'est organisé par le Shabada et le festival Premier Plan. Et chaque année, un jury composé de professionnels de la musique et de l'audiovisuel choisit le meilleur des réalisations dans la catégorie clip, bien sûr. Alors pour vous donner un ordre d'idée, sur 166 candidatures cette année, 18 ont été retenues. Vous pourrez découvrir le prochain artiste lauréat jeudi prochain, donc à partir de 20h au Shabada. C'est gratuit, il y a le vote du jury et aussi le vote du public. Et après la projection, El Maout, j'espère que je prononce bien, sera en concert, c'était le lauréat du public en 2020. Alors maintenant qu'on sait tout sur Clip d'ici, j'aimerais qu'on rentre dans le sujet avec toi, Josic. Toi, tu as réalisé des clips pour Dogs for Friends, Odor ou Wild Fox, du coup, là je cite les groupes angevins. Je me suis demandé comment tu es arrivé à la réalisation de clips. Est-ce que c'était une envie que tu avais depuis longtemps? Est-ce que ça s'est fait un petit peu par hasard?
Je crois que ça s'est fait un peu par hasard. Et j'avais commencé par des projets de copains. Et au final, je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi de faire les clips de mon propre projet musical. Faire vraiment une... Déjà, composer la musique, c'est donner une version artistique de ce que tu peux avoir en tête. Et donner une image par-dessus, bah, c'est encore mieux, quoi.
Ouais, donc toi, c'est d'abord la musique, en fait, qui était présente.
Ouais, c'est ça. Et après, je faisais pas mal d'images en photo. Surtout quand on faisait des concerts avec les gars, je les prenais en photo un peu
avec
tout
Wild
le temps.
Fox.
C'est ça, avec Wild Fox, ouais. Et est venue l'idée de faire un clip nous-mêmes, un peu avec ce qu'on avait, quoi. Et du coup, il y avait ce premier clip, Numb Legs.
Ça, c'est le premier clip que tu as réalisé ?
C'est pas le premier clip, mais le premier clip que j'ai fait vraiment avec les gars pour le projet. Et c'était une bonne expérience.
Ok.
Et on de était là, vraiment content de ce clip en plus, faire nous-mêmes, c'était trop cool.
Ok. Et de là, tu t'es dit, je vais réaliser pour d'autres projets, d'autres artistes, parce que c'est différent de mettre en image la musique que tu composes ou que tu co-composes ou que tu joues, et d'aller s'engager pour d'autres.
Bah c'est sûr, parce que quand on vient te demander un clip, il y a soit déjà des idées, soit des trucs qu'ils veulent pas faire ou des trucs qu'ils veulent faire. Il y a un cahier de doléances, on va dire. Et des fois, c'est carte blanche. Des fois, c'est... bah voilà, je veux faire ça, 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 ça et ça. Et moi, je dis, par exemple, ce que je peux faire, tout ça. Mm-hmm. Et je crois que celui d'après, à part les clips qu'on a fait avec Wild Folk, j'en ai fait deux. Mm-hmm. Il y avait Scuffles. D'autres copains aussi, on a fait un clip après le premier confinement, je crois. Et là, c'était aussi carte blanche. On a fait avec les idées qu'on avait, un peu brainstormé, tout ça. Et puis...
Et pour faire un clip, alors c'est une forme qu'on connaît tous, qui est hyper populaire, ça tourne beaucoup, ça permet de servir la musique. C'est important aussi pour les artistes d'avoir un bon clip. Mmh. Et il y a quand même cette contrainte première qui est le morceau qui existe déjà, de servir la musique. Toi, comment tu fais pour trouver l'idée centrale ? Là, tu nous as dit, il y a des cahiers de doléances, des fois il y a des artistes qui ont des idées, des fois c'est carte blanche. Comment ça se passe un petit peu le processus de création ?
Bah, soit, comme je disais, c'est soit il y a des idées de départ, soit moi, quand j'ai vraiment carte blanche, je peux peut-être passer 10 fois à écouter la chanson et peut-être juste à imaginer des choses. Je sais que quand j'écoute des musiques, j'imagine toujours un peu des trucs dans ma tête. Et après, je commence à écrire des petits trucs, genre, ah là, ça pourrait être cool, hein. Je sais pas, imaginons un truc qui va vite, une course-poursuite ou je sais pas, n'importe, je dis au hasard, mais les idées qui me passent par la tête. Et après, j'essaie de construire un truc un peu cohérent ou pas du tout, un truc qui a aucun sens, mais qui est juste visuel et un truc cool. Parce que moi, je suis très visuel, donc c'est ce qui m'intéresse aussi le plus, tant qu'imagier, on va dire.
Ouais, avec des formes qui peuvent revenir ou un personnage au milieu d'un décor.
Ouais,
un peu
c'est
central.
Ça. Des fois, j'aime un peu les trucs. Y a des potes qui m'ont souvent dit putain, mais je comprends rien à tes clips, ça n'a aucun sens, alors que moi, je trouve un sens et. C'est juste, j'aime beaucoup l'image et la photo. Vu que j'ai commencé par la photo, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ce que j'essaye de aussi mettre dans mes clips. Et ouais, les idées, c'est, j'essaye d'avoir... Au début, c'est vraiment les images qui me viennent en écoutant la musique, surtout.
Ouais.
Après, on en parle, des idées, si vous voulez faire ça, machin.
Donc les artistes, tu les associes à chaque fois aux étapes de réalisation ou de réflexion ?
Ouais, bien sûr. Il y en a qui sont plus impliqués que d'autres. Ce qui est normal, il y en a, ça, ils sont plus axés
musique.
Vas-y,
fais
ou quoi.
Le clip.
Bah, c'est pas exactement ça, mais il y en a, c'est plus... bah, on te fait confiance et puis libre à toi de faire ce que tu veux. Il y en a qui arrivent déjà avec toute une idée, avec tout un script, tout ça. Et moi, je suis là pour mettre en image et aussi donner mon avis, vu que c'est aussi mon travail. Mais en général, quand je suis libre de ce que je peux faire, bah, j'écoute la musique en boucle jusqu'à ce que vienne une idée et puis après, j'écris de plus en plus et après je fais une espèce de minutage de toute la chanson pour voir les parties et tout ça et les actions qu'il pourrait y avoir.
Alors justement, moi je t'écoutais et tu parlais à un moment de clips qui font sens ou qui font pas sens, de script, et je me demandais justement est-ce que le clip pour toi c'est un espace de liberté, presque un espace expérimental où on associe des images a posteriori à une ambiance musicale, ou est-ce qu'on cherche, c'est un court métrage et peut-être qu'on cherche au contraire à créer une sorte de scénario qui serait en écho à la musique. Comment est-ce que tu travailles ?
Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup écrire des petits scénarios. Même pour des clips, je trouve ça cool parce que c'est un format assez court qui peut être avec du texte si on veut rajouter par-dessus la musique ou avant, ou faire des petites interviews, tout ça. Et ce qui est cool, c'est que tu peux faire un peu un court-métrage, même avec des gens qui ne savent pas forcément jouer. Là, il y a beaucoup de clips que j'ai fait où c'est vraiment soit des copains, soit des gens avec qui j'avais discuté, que je trouvais cool par rapport à leur caractère, tout ça qui pouvait être cool dans un clip. Et ouais, j'aime bien écrire des petits scénarios, mais des fois c'est aussi cool de faire juste une ambiance, comme tu disais. En fait, des fois je me dis, un clip ça peut être juste un seul plan ou des trucs comme ça, comme des plans séquences ou des... juste un plan fixe d'un mec qui chante ou... En fait, c'est vraiment créer une ambiance. Moi, personnellement, j'aime bien créer des scénarios parce que je trouve ça marrant. Créer autour d'une musique, des ambiances. Comme Numbleg, c'est un peu qu'on a fait, c'est un peu scénarisé, mais en même temps, c'est un c'est assez photographique, donc c'est pas forcément très compliqué.
Il y a une forme aussi qui revient, enfin, il y a le personnage. Est-ce que tu peux le décrire un petit peu ce qui se passe dans ce clip?
Ouais. Mais en fait, dans ce clip, à la base, l'idée, c'était d'avoir un personnage qui se retrouve, je sais pas si c'est vraiment clair dans le clip, mais qui se retrouve tout seul dans le monde entier, mais qui continue à entretenir sa petite ville, dont il est si amoureux. Ouais. Et en fait, il fait un peu tous les métiers qu'il a jamais fait. En fait, lui, on sait pas trop ce qu'il faisait avant, mais là, on le voit dans une salle de basket, au golf.
Il tourne la pelouse.
C'est ça, il tourne la pelouse. Et en fait, il fait un peu les métiers qu'il observait avant, que de sa petite ville. Et en fait, il continue à entretenir son petit chez-soi, même s'il n'y a plus personne. Donc voilà.
Je me suis aussi demandé quelle était la part de ce qui était écrit d'avance et ce qui se fait au moment du tournage. La part d'improvisation, je pense par exemple au clip pour La Houle, Toi, ce mois, que tu as co-réalisé avec Kelly de Delaunay, et qui est aussi dans la sélection Clip d'ici, où là, vous avez été tourné au festival de Dunkerque. Donc, il y a vos personnages, ce que vous avez déjà posé, choisi. Un personnage un peu normal et un clown qui n'est pas du tout normal, je dirais, enfin, qui est un peu inquiétant. Peut-être pas tant que... Bref, peu importe. Et surtout, les gens qui sont là au festival, qui font leur vie, qu'on voit dans le clip, mais dont on ne peut pas prévoir les réactions, les actions. Alors, je ne sais pas si ça t'inspire sur la question de l'improvisation.
On avait quelques idées. Et aussi, Yannick, qui était là tout habillé en blanc, a fait beaucoup d'improvisation. Mmh. Et ça, c'était trop cool. De jouer assis avec les gens qui sont là. C'était... on est ressorti avec beaucoup, beaucoup d'images qu'on n'a pas forcément utilisé, parce qu'en même temps, c'était une journée entière, je crois, on a fait de 6h à 22h, je crois, et donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées, des fois des trucs qui marchaient pas, ou des fois on perdait les gars dans la foule, et nous, on pouvait même plus filmer.
En gros, vous êtes parti avec juste l'idée de départ, le festival de Dunkerque comme décor, et deux personnages, c'est ça ?
En gros, on avait un début et une fin, on avait un peu scripté... on va dire le début, le milieu et la fin, et entre, on a placé des petits trucs un peu comme ça, un peu au feeling de ce qui s'est passé, aller voir les gens. Il y a eu une scène, je crois, qu'on a pas mis, où il y a, officiel d'un cas, il y a des trucs qui s'appellent des chapelles. En gros, c'est comme des afters, mais en fait en journée.
Ok.
Et en fait, je sais pas si j'ai exactement la définition, mais en gros, c'est ce que j'ai compris. Et en gros, t'as des gens qui peuvent t'inviter chez eux.
Mais la chapelle, c'est un lieu physique?
Non, c'est les apparts des gens, d'accord, ou maisons. Ouais. C'est juste un terme là-bas, si j'ai bien compris. Et à un moment, on a essayé d'aller dans une de ces chapelles, on va dire. En gros, dans un after, et on n'a pas réussi. Mais il y avait un petit moment assez marrant avec une personne qui était déguisée en fantômas. Et au final, c'était un peu gênant, la scène, parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Mais tout le monde était déguisé, donc ça paraissait tellement... improbable. Et y a même quelqu'un qu'on a interviewé sur un banc, il nous a raconté toute sa vie.
Ouais, donc vous aviez en fait une matière beaucoup plus vaste que celle du clip, quoi.
Et justement, avec cette matière, comment est-ce que tu peux travailler le montage? Est-ce que tu te cales sur éventuellement les rythmes, les phrases musicales? Est-ce que tu gardes ton histoire et donc elle est peut-être le rythme de l'histoire est un peu séparé de celui de la musique? Comment ça marche?
Bah, vu qu'on avait à peu près une trame générale, on n'avait que des petits blocs qui se rajoutaient, mais on savait à peu près les actions qu'on voulait mettre. On l'avait dit à Yannick d'aller vers les gens, d'un peu de les côtoyer, tout ça. Et on avait quelques lieux en tête, on avait regardé tout ça. Et le fait d'avoir ce festival-là comme décor, déjà c'est incroyable parce que quand t'arrives à 7-8 heures, je crois, en fait t'as toute la ville qui est déserte. Et t'as un décor de film mais de apocalyptique mais incroyable. Bon, après t'as toute la fête qui arrive, tout ça, mais franchement t'as un décor mais trop trop bien, quoi. Mais on avait déjà tous nos petits trucs, donc c'était pas que freestyle, on va dire, mais juste les interactions, le cadrage. Il y avait beaucoup de... En fait, c'était un clip un peu reportage quand même, même si c'était pas à thème reportage, mais c'était un peu... On capte, c'était beaucoup de captation quand même. Et du coup c'était cool, c'était... C'est ça qui est cool, comme on disait tout à l'heure, les formes de clips qu'il peut y avoir, elles peuvent être soit toutes écrites, moodboard, storyboard, tout est calé au millimètre. Le clip est déjà fini avant de le tourner.
En mode
et là, de quoi ?
Comme Hitchcock, quoi.
Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, c'est vraiment capter des moments et, et on voit ce que ça donne. Et le but, c'était de choper un maximum de matière pour pas avoir rien sous la main et pouvoir monter quelque chose.
Est-ce qu'il peut arriver que des images se montent et que du coup la musique s'adapte aussi après ? Enfin, que
la musique change.
En fait, que ce soit anticipé, que ce soit pas illustré une musique, mais que la musique vienne aussi coller aux images a posteriori.
Alors, j'ai jamais fait, enfin, jamais eu de changement de musique, mais je sais que, enfin, sur certains clips, on a mis des petites intros de son, genre par exemple le clip de Numbleg, il y a une petite intro de, je crois, de son ambiance d'oiseau, des trucs comme ça. Je sais que moi, j'aime bien faire ça. Ou est-ce qu'il y en a eu d'autres ou ouais, c'est ce genre de truc. Même c'est surtout pour les teasers que j'aime bien faire ça. Non, puis le premier teaser qu'on avait sorti de Numbleg, c'était juste Frédéric qui joue dans le clip qui tond la pelouse et j'avais juste mis un bruit de tondeuse. Et ça c'est le genre de truc que je fais un peu si l'artiste est ok, bien sûr, vu que ça touche un peu la musique. Mais changement de musique, non, je crois pas. Il y a eu des formats. Là, je travaille sur un clip où où il a modifié l'intro, qu'avoir une plus longue intro pour la musique, pour le clip, je veux dire, contrairement à la musique qui sera sur les plateformes. Mais sinon, pas de gros changements. Mais c'est possible, en tout cas. Faire des petites interludes, moi, je pense que c'est un truc que je ferais avec la moitié du clip, où t'as un petit dialogue ou un truc comme ça, je sais que j'aime bien.
Ouais, c'est cool. Mettre plus en avant le côté écriture, cinématographique.
Ouais, court-métrage, quoi. Avoir un peu de dialogue, et puis ça... Ça permet aussi de rentrer plus dans le clip, ouais. Suivre une histoire, c'est cool.
Et réaliser un clip, c'est aussi répondre à l'univers des artistes avec lesquels tu travailles. Et toi, tu as ton propre vocabulaire visuel, tes propres obsessions peut-être, tes choix esthétiques, mais qui vont se retrouver dans des styles de musique très différents. Est-ce que ça change quelque chose pour toi ? Par exemple, Scuffles, c'est complètement différent de Odor ou de Dogs for Friends. Enfin, on est sur des rythmes, des énergies complètement différentes. Est-ce que ça change quelque chose ?
En fait, je m'adapte. Je fais surtout... en fait, j'aime beaucoup de styles de musique différents. Et je me prive pas à me dire que j'écoute que ça. Je trouve ça un peu bête. Et en vrai, non, pas tant que ça. Je me casse... Comme je disais, quand j'écoute plusieurs fois la musique, j'ai des images qui me viennent. Après, j'ai évidemment des univers, on va dire, à créer en fonction des artistes. Parce que... C'est ça qui est un peu dur, tout le monde veut un peu son univers à soi. Moi aussi, j'ai mes styles d'image, mais... Et en même temps, faire des trucs de styles complètement différents, tu touches d'autres publics et c'est cool, je trouve. En même temps, si on regarde un film en entier, il y aura peut-être trois styles de musique différents et au final, ce sera le même film.
Et toi, d'être musicien également, est-ce que ça influe, comment ça influe ta façon de faire des images ?
Dans le sens rythmique, je pense. Surtout au niveau du montage, je pense. L'image en soi, un peu le cadrage quand même, des fois, en fonction de la musique. Des fois, on se met la musique et peut-être un peu rythmé en fonction du rythme musical. Mais c'est surtout au niveau du montage que ça m'apporte beaucoup. Cutter sur des kicks ou des questions.
Sur des temps de comprendre la musique.
Sur des temps importants, ouais, c'est ça. Ce qu'on m'a beaucoup dit par rapport à d'autres gens, c'est vraiment cool d'avoir le rythme aussi dans le montage. C'est pas forcément évident quand tu fais pas de musique, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de la vidéo, qui font de la musique aussi en perso. Et du coup, ça aide pas mal, je pense.
De comprendre le morceau.
Ouais. Le déconstruire, le couplet, le refrain, le couplet, le refrain, découvrir le rythme à chaque truc, enfin, chaque partie, je veux dire. Et ouais, c'est surtout au niveau du montage, moi, que ça m'aide.
Ok. Et la scène musicale angevine, elle est riche, avec des projets très différents. On voit qu'il y a des complicités aussi qui se créent entre les groupes, les artistes. Et j'ai l'impression que ça se retrouve aussi dans la réalisation de clips, un petit peu. Alors, je ne sais pas si tu as une impression de collectif ou de soutien mutuel. Est-ce que c'est juste moi qui me projette dans cette possibilité-là ?
Non, ouais, carrément. Il y a eu beaucoup d'entraide, je trouve... Sur Angers, entre se prêter du matos, se filer un coup de main. Ouais, nous on a besoin de coup de main pour ce truc là, vas-y je viens, tout ça, ce genre de truc, et ça c'est cool. Surtout au niveau du prêt du matos qui est quand même quelque chose qui coûte cher, et quelque chose qui peut se prêter entre nous, et ça, c'est cool.
Ouais.
Et même là, nous, on a créé une structure à plusieurs avec, avec quelques personnes avec qui je travaille beaucoup.
Capharnaüm.
Entre autres. Ça, c'est du coup une chaîne de live session qu'on a créée à plusieurs. Et le but, c'est vraiment d'inviter des artistes dans des lieux un peu originaux, on va dire. Et là, on a créé une structure qui est toute nouvelle à plusieurs avec quelques copains. Donc le but, c'est de réaliser des clips comme plein de choses, des pubs, des vidéos live session, enfin toutes sortes de vidéos. C'est ça, toutes sortes de productions vidéo qui restent quand même dans une esthétique qui nous plaise.
Mm-hmm.
Donc voilà.
Okay. Le projet a un nom ?
Ça s'appelle Vision.
Vision, très bien. Ça, on pourra suivre.
Voilà.
Et dans alors la sélection clip d'ici, donc on pourra découvrir le ou la gagnante ou les gagnants jeudi prochain. Il y a un jury, on l'a dit, il y a même des prix à gagner, que ce soit une résidence, de l'argent pour financer des clips, des concerts. Toi, quelle réaction ça te fait d'avoir deux des clips que tu as réalisés qui est dans la sélection ?
Ah bah c'est trop bien, ça fait plaisir parce que du coup. C'est des projets où on a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de, on va dire, je veux dire de nous, mais enfin de nos idées. Et le fait que ça plaise à des gens, bah, c'est déjà hyper gratifiant. Et je trouve ça cool d'être diffusé quelque part face à un public direct.
Ouais.
Il y a un côté... parce que YouTube, c'est super hein, pour diffuser, mais des fois, c'est cool de se retrouver au même endroit, diffuser des choses... qu'on a fait et avoir une réaction directe avec les gens, je trouve ça cool.
Ouais, là c'est vraiment en live d'être ensemble. La sélection elle est très cool, il y a d'autres groupes angevins, je les cite pas tous, mais rapidement il y a aussi Nerlof, Péniche, Théophile, plein d'autres, vous pouvez les retrouver en ligne. D'autres coups de cœur ou choses à dire de cette sélection, toi de ton côté, Josic ?
Ouais, faut que je fasse des pronos.
Non, ah tu peux si tu le souhaites.
Non, je ferai pas de pronos, mais
c'est un peu risqué.
Il y a de très beaux clips. Franchement, tous les clips méritent un prix et voilà.
On va rester sur un pronostic assez large.
Ouais.
Alors, merci beaucoup Josic d'être venu nous parler de la réalisation de clips.
Pas de souci.
Alors, on peut voir ton travail sur ton site. josicjegu.com, il sera en ligne à la page du podcast de l'émission. Je vous redonne les dates, la date de la soirée Clip d'ici, c'est à 20h jeudi prochain le 24 mars au Shabada. Il y a les 18 clips sélectionnés, on saura enfin qui a gagné le prix. Il y a aussi le vote du public et après la projection c'est Hellmouth qui sera en concert et tout ça est gratuit. On écoute tout de suite un des titres dont on a parlé, donc Nub Legs de White Fox, tu joues dedans et t'as réalisé le clip. Quelque chose à nous dire avant qu'on l'écoute ou...
Bah, bonne écoute.
Merci Josic.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
The light, I wait, waiting to see a sign. You live, leave a
Vous êtes toujours à l'écoute de Caméra Subjective sur Radio G. Et après le titre « Namelegs » de White Fox, nous partons faire une virée ciné dans la région avec Anne-Li. Alors Anne-Li, qu'as-tu repéré pour nous cette quinzaine dans les salles ?
Alors tout d'abord, la première grande nouvelle, même si vous le savez déjà, les cinémas sont de nouveau accessibles sans conditions sanitaires. Plus besoin de passe vaccinale, de masque, à vous le pop-corn et les séances à l'improviste. Alors il faut toujours continuer à payer sa place et venir à l'heure, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Un autre petit coup de pouce pour revenir dans les salles, c'est le printemps du cinéma qui aura lieu du 20 au 22 mars, et ça veut dire que les places seront à 4 euros. Alors autrement, je vous invite à un événement qui fait la part belle au réel et qui se déroule la semaine prochaine à Nantes, le Festival du documentaire organisé par la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, et la plateforme, le pôle cinéma et audiovisuel dans la région Pays de la Loire. C'est vendredi 25 et samedi 26 mars. Alors pour être exact, il s'agit d'une sélection de la programmation du Festival des Étoiles Documentaires 2021, dont la cérémonie s'est passée la fin d'année passée, à Paris. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant 2 jours, vous pourrez découvrir gratuitement 6 films documentaires au lieu unique, à Nantes bien sûr, et rencontrer les équipes de réalisation. On ne va pas parcourir dans le détail la programmation, il y a par exemple « Celui qui danse » d'Olivier Lemaire, « Parler avec les morts » de Taïna Tervonen et « Haï » de Marine Otto, Gali et Aël Théry. 3 autres films, vous les découvrirez en ligne. On met le lien vers la programmation dans le podcast de l'émission. Et ce temps dédié au documentaire à Nantes est aussi l'occasion de rencontres et de tables rondes, avec par exemple de personne à personnage, un échange qui aura lieu le samedi à 15h45, où réalisateurs et réalisatrices partiront de leur expérience pour échanger sur les différentes étapes qui font que nous partons de cette personne réelle devant la caméra, qui devient une sorte de personnage. Je vous redonne le nom de l'événement, Les Étoiles du documentaire, qui est à retrouver à Nantes, vendredi 25 et samedi 26, au lieu unique, et vous pouvez y aller sans risque, c'est gratuit.
Autre département, autre festival, celui des Reflets du cinéma, qui se déroule dans de nombreux cinémas de Mayenne, du 18 au 27 mars, à l'initiative de l'association Atmosphère 53. Alors, le pays à l'honneur cette année n'est pas un pays, puisque c'est un territoire, celui de la Mer Noire. Le festival propose pendant 10 jours une programmation riche pour petits et grands spectateurs, entièrement dédiée aux cinématographies des pays de l'Europe orientale, de la Roumanie à la Turquie, de la Géorgie à la Bulgarie et de l'Ukraine à la Russie. Et là, je pense que vous me voyez venir. De façon purement fortuite, puisque, comme l'explique sa déléguée artistique Audrey Bénès, la thématique a été choisie il y a 2 ans, ce festival se retrouve au cœur d'une actualité internationale plus que mouvementée. Alors, fallait-il l'annuler ? Fallait-il raccourcir sa programmation en excluant les films de cinéastes russes ? Ce bannissement artistique peut-il avoir un sens quand certains cinéastes russes prennent le risque de dénoncer le régime de Poutine ? C'est le cas notamment du réalisateur Andrei Zyaginchev, auquel le festival consacre un focus, prévu de longue date, tant le cinéaste est un artiste reconnu et important au niveau international. Le cinéaste ukrainien Sergei Lotnitsa, lui aussi honoré d'un focus cette année par le festival, appelle au contraire les spectateurs à séparer les réalisateurs de leur passeport et à voir les films de ceux qu'il désigne comme ses amis et collègues, les cinéastes russes. Alors n'hésitez pas à vous rendre en Mayenne pour découvrir la richesse culturelle de ce territoire fort de plusieurs pays, unis par le cinéma plutôt que pris dans la guerre.
Et enfin, aussi en écho à cette situation et à cette guerre qui se déroule en Ukraine, les 400 coups, premier plan et cinéma parlant proposent une séance tous solidaires avec l'Ukraine. C'est ce vendredi 18 mars à 20h, avec la projection du film « La terre est bleue comme une orange », un documentaire de Irina Tsilik. Sorti en 2020, le film nous emmène dans le Donbass, où la vie était déjà perturbée depuis quelques années par des désirs indépendantistes. On rencontre Anna et ses 4 enfants, dont la vie est parfois empêchée, impossible d'aller à l'école, devoir dormir dans leur cave, et qui décident de faire des films sur leur quotidien. Alors la séance est à 5 euros et l'ensemble des recettes sera reversé à la Croix-Rouge française.
Juste dire que je suis très déçue que ce film ne soit pas distribué en France. C'est un documentaire qui mérite d'être vu. Il avait été notamment distingué à Sundance et à Premier Plan l'année dernière. Et dans cette ville fantôme meurtrie et saccagée par la guerre que nous suivons, une famille qui résiste en tournant un film et qui devient source de vie, d'art et de folie. Tout l'absurde et le non-sens du titre de film, qui est aussi un vers de Paul Éluard, « La terre est bleue comme une orange », tout ce titre prend alors son sens, ne vous fiez pas aux apparences. Il ne s'agit pas d'un film de guerre, mais d'une histoire où tout est possible tant qu'il y a un souffle de vie et de passion. Bon voilà, c'était mon petit coup de cœur de l'émission. Et je donne maintenant la parole à Margot, qui va nous parler de pleurs et de femmes. Alors ce soir, nous partons à Sofia, capitale de la Bulgarie. Ville que le film Women Do Cry s'attache à nous montrer en chantier, un peu comme en écho à cette société bulgare conservatrice, soumise à l'ébullition révolutionnaire d'une partie de sa population, les femmes. Car autant le dire tout de suite, ce film des réalisatrices Mina Mileva et Vesela Kazakova, présenté au Festival de Cannes en juillet dernier, mais que l'on a pu découvrir à Premier Plan cette année et qui sera aussi projeté dans le cadre du festival Reflets de la Mer Noire, eh bien ce film rayonne d'une sacrée dose d'énergie et de colère. C'est en tout cas ce que nous suggère le générique début, écrit en grosses lettres noires sur papier blanc, à la manière d'une banderole de manif ou des collages féministes que l'on peut découvrir sur les murs de nos villes. On parle souvent de film choral pour désigner un scénario qui fait se croiser plusieurs personnages. Eh bien, disons que là, Women Do Cry peut vraiment se percevoir et s'écouter comme un cri choral, celui d'une famille de femmes en lutte. Alors, dans cette famille de révoltées, je demande les deux filles, deux sœurs, Laura et Sonia. Elles se chamaillent sous nos yeux dès la première séquence, balancent par la fenêtre les habits de l'une puis de l'autre, se giflent, mais se réconcilient instantanément pour faire front commun contre leur mère. Cette complicité entre elles, parfois tendue, c'est le nerf du film, une idée puissante qui autorise l'intimité la plus forte, comme lorsque Laura et Sonia parlent de désir et de plaisir, mais aussi la fragilité la plus émouvante, quand les deux sœurs découvrent que la maladie peut les séparer. Laura est conductrice de chantier, femme de tête dans un milieu professionnel exclusivement masculin, où elle se bat au quotidien pour affirmer sa place. Sa sœur papillonne et rêve d'une carrière de musicienne. Penchons-nous maintenant sur les tantes, car à la génération au-dessus, on trouve à nouveau des sœurs, trois cette fois. Anna, la mère de Laura et Sonia, qui passe pour la dilettante excentrique de la famille, mais qui est surtout écrasée de reproches par son père, un tyran domestique qui en a fait son souffre-douleur depuis le décès de sa femme. Il y a aussi Véronica et Johanna, les jumelles. L'une a abandonné une carrière dans le domaine médical pour se consacrer à sa fille de 1 an, encore une fille. Et l'autre est devenue avocate, militante pour la cause des femmes et des homosexuels, deux raisons de se faire lyncher dans les manifs, auquel elle participe activement avec sa compagne. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois personnages de sœurs sont joués à l'écran par trois sœurs dans la vie qui sont toutes les trois comédiennes.
Et maintenant, où sont les hommes ?
Eh bien, tout en haut de la hiérarchie familiale, évidemment. Bien que diminué physiquement après un AVC, le père reste toujours aussi brutal dans ses propos, et sa nouvelle femme est digne des marâtres des meilleurs contes de fées. Mais je garde le meilleur pour la fin. Il y a un dernier personnage qu'on ne voit jamais dans le film. Et pour cause, il s'agit de la matriarche défunte, femme battue par son mari et fantôme dont la bonté pour ses filles et ses petites filles plane pendant tout le film. Cette bienveillance est le lien souterrain et profond qui relie ses sœurs, ses tantes, ses mères en colère. Alors, vous l'aurez compris, à travers ces personnages, Women Do Cry dresse un portrait au vitriol de la condition des femmes en Bulgarie, au moment où le pays est éprouvé par de violentes manifestations et débats sur le genre. Car la contrée n'est pas franchement à la pointe de l'empowerment féminin et plutôt violemment répressive en matière de liberté d'expression. Ce sentiment d'emprisonnement qu'exprime, que crie chacun des personnages féminins, nous est fabuleusement transmis par l'image du film. D'un format presque carré, le fameux 4 tiers, qui est plutôt relégué aux oubliettes de l'histoire du cinéma, le cadre est littéralement étouffant pour les personnages qui s'y entassent lors des plans de groupe. Le ciel apparaît peu dans l'image, renforçant cette impression oppressante d'avenir un peu bouché. Sauf quand on lève les yeux vers les cigognes, respiration poétique du film.
Est-ce que ce film est une énième illustration de la guerre des sexes ?
Alors, pour être honnête, je dois dire que par moments, un peu. D'autant que le film présente quelques longueurs. Mais ce serait assez déplacé de lui en tenir rigueur. Incarnées avec force par des comédiennes formidables, les femmes du film luttent avec leurs armes, la détermination, l'intelligence, la solidarité, les mots, contre ce qui les oppresse. En vrac, le patriarcat, la maternité, la place des femmes dans le monde professionnel, le schéma traditionnel familial, le refrain fameux « un papa plus une maman » qu'on entend aussi parfois chez nous, et le VIH, le sida, transmis par un amant lâche et inconséquent. Cette maladie dont on parle beaucoup moins qu'avant est pourtant toujours aussi mortelle. Elle donne sa tonalité grave au film comme un contrepoint nécessaire à l'énergie brûlante de la révolte. Le film trouve alors son équilibre et le moyen d'affirmer la force du collectif féminin, de la sororité.
Соня, ако не започнеш да взимаш лекарства, ще умреш.
Защо не искаш да си до мен?
Мреш, не искам да живея без теб, разбираш ли?
Много е гадно да си жена.
Да. Обаче, знаеш кое е по-отвратителното?
Да си мъж.
Petite traduction de ce dernier échange entre Sonia et sa tante Véronica, pour celles et ceux qui n'ont pas fait bulgare en première langue au collège.
Être une femme, ça craint.
Mais tu sais ce qui craint encore plus ?
Être un homme.
À bon entendeur et bonne entendeuse.
Woman Do Cry, réalisé par Mina Mileva et Vasela Kazakova, est actuellement en salle. Pour les Angevins et Angevines, vous pouvez encore le voir cette semaine sur grand écran au 400 coups. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Caméra Subjective. On espère que nos sujets de ce soir vous ont donné envie de les découvrir à l'écran. Toutes les infos seront ou sont en ligne à la page du podcast de l'émission sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. N'oubliez pas le rendez-vous du 24 mars au Shabada pour la projection Clip d'ici, pour connaître le gagnant, un concert. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Connaît-on le sujet de dans 15 jours ? C'est une surprise. Une belle surprise, c'est sûr. Merci beaucoup, bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
Au revoir.